Donc, bonsoir à tous pour cette conférence qui fait partie du séminaire d'histoire des sciences techniques au Moyen-Âge. Je veux passer la parole à Cécile Tréfort, directrice adjointe du CESCM. Je voulais remercier Laurence Moulinier d'être avec nous ce soir parce qu'elle vient de loin, vient de Lyon. Et donc, Laurence, tu es venue, tu m'as dit en 2002, mais j'ai eu l'impression que tu étais venue plus souvent parce que comme tu es une amie très chère de la maison, on t'a vue à Poitiers, il est vrai, pendant un certain temps aussi, tu as contribué à un article dans l'actualité Poitou-Charente avec Jean-Luc Terradios. Et puis voilà, donc nous sommes ravis de te voir ici ce soir et nous allons avoir le grand plaisir de t'écouter sur un thème qui fait partie justement de ta thèse, hein, que c'est Hildegard de Bingen. Et voilà, je vais laisser la parole à Cécile pour présenter notre amie Laurence Moulinier-Brogui. Merci Laurence.
Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de présenter Laurence, puisque après avoir été collègue pendant quelques années, j'ai toujours le plaisir de la revoir ici ou ailleurs d'ailleurs, et pas assez souvent à mon goût, mais tu sais, tu es la bienvenue. Donc Laurence Moulinier a été maître de conférence justement à Poitiers entre 94 et 99, et ensuite à Paris 8, et elle est depuis cette année professeure à l'université Lyon 2. Pour moi, c'est aussi un clin d'œil, puisque je viens, on a fait un parcours inverse pratiquement, et on se retrouve ici. Et donc, Laurence avait travaillé en thèse sur l'œuvre scientifique d'Hildegard de Bingen, et tu lui as consacré un certain nombre de travaux, et j'ignorais pour ma part que tu avais reçu le prix international d'histoire de la médecine Salvatore de Renzi, donc je te félicite aussi pour ça, même si c'est un peu ancien maintenant. Et donc le mieux, c'est sans doute de te laisser la parole avec un grand grand merci pour ta présence, et je suis sûre qu'on va encore découvrir des choses nouvelles, parce que c'est un personnage tout à fait important et imposant à tous les points de vue. Merci bien.
Eh ben, merci à toutes les deux de ces mots de bienvenue, et je ne saurais dire moi-même non plus assez le plaisir que j'ai d'être à nouveau ici et à retrouver des lieux et des êtres chers. Et donc je remercie en particulier Anne Bonnefoy et le Centre Mendès France qui m'a fait le plaisir de m'inviter à parler de quelqu'un qui m'est cher aussi, il faut bien le dire, malgré le temps. Je crois que mon affection pour Hildegard de Bingen ne s'use pas trop. J'espère en tout cas essayer de vous le transmettre. Alors ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est un des aspects de l'œuvre et de la personnalité de cette religieuse qui est désormais très célèbre, peut-être trop parfois, je ne sais, mais qui, comme vous le savez aussi, a vécu fort longtemps, entre 1098 et 1179, et a eu toutes sortes de talents qui lui ont permis de s'essayer à des genres extrêmement divers. Elle était visionnaire, mais elle a laissé de la musique, beaucoup joué ces derniers temps, des grands écrits visionnaires, bien sûr, des traités de médecine, des vitsa, etc., etc. Enfin, toute une gamme tout à fait passionnante. Alors, pour ma part, donc, je vais tâcher de me restreindre, si on peut dire, à l'œuvre médicale de Hildegard, médicale ou scientifique, comme on veut, mais bien sûr sans la couper de la dimension théologienne qui a habité Hildegard toute sa vie et qui constitue vraiment la toile de fond pour essayer de comprendre sa pensée. Alors, son œuvre médicale est constituée de nos jours par un diptyque, deux ouvrages que je n'ai pas apportés, j'aurais dû, il pèse un peu lourd. L'un s'appelle Physica alias Liber Subtilitatum, et il vient d'être enfin édité par une de nos collègues, Irmgard Müller, qui annonçait l'édition depuis plus de 20 ans. Ça y est, c'est sorti. Alors que jusque-là, nous ne disposions que d'une édition dans la patrologie latine de Migne. Mais je m'excuse, je n'ai pas apporté le volume qui, pour le coup, est très très lourd, mais qui est désormais donc disponible. Et puis le second volet de son œuvre, dont j'ai donné récemment une édition critique, s'appelle Causae et Curae, donc les causes et les remèdes. Et l'ensemble donc constitue l'œuvre médicale ou encore une fois scientifique de Hildegard, un des très très rares cas d'œuvre de science émanant d'une femme au Moyen-Âge. Elle l'a composée, d'après ses propres dires, entre 1150 et 1158, mais elle se situe véritablement à part, enfin elle se singularise aussi pour cela. Et je vous proposerai donc une petite causerie pour tâcher de rendre compte de cette œuvre, à laquelle je donnerai volontiers un sous-titre qui serait « La vision et le regard », pour tâcher de montrer comment la théologienne et la naturaliste, disons, s'entremêlent, interagissent et sont à considérer ensemble dans ses écrits, même sous leurs aspects les plus... physiciste, on va dire. Alors, je suis obligée de vous asséner pour commencer une brève histoire de l'œuvre, mais je vais essayer de simplifier. Mais il y a une partie importante d'énigmes textuelles dans le cas d'Hildegarde. C'est pas la seule, bien sûr, mais dans son cas, il y a énormément de questions qui sont posées ou qui se posent encore quant à la transmission de cette œuvre, qui a été encore compliquée du fait qu'on a voulu la canoniser et qu'à cette occasion, on a remanié l'œuvre. Enfin bref, je reviendrai peut-être sur ces questions, on y reviendra dans la discussion, mais c'est un dossier riche également de ce point de vue. Alors donc, comme je le disais, on dispose aujourd'hui d'un diptyque, hein, de deux traités avec deux titres distincts, là où Hildegarde elle-même disait avoir composé un ouvrage. Hein. Elle disait, j'ai écrit, donc entre 1150 et 1158, un ouvrage qu'elle aurait donc appelé, nommé « Livre des subtilités des diverses natures des créatures ». Petite parenthèse, l'œuvre en question a été traduite en français par Pierre Monat il y a au moins 10 ans, c'est peut-être même 20, je ne sais plus, mais il a modifié le titre, hein, traduit par « Livre des subtilités des créatures divines », ce qui est déjà une interprétation, alors que le titre d'origine ne contient pas véritablement de référence au divin. Alors donc, je parlerai alternativement ce soir de Physica ou Livre des subtilités, comme une même chose, et je vais m'en expliquer un petit peu plus en détail par la suite. Une brève présentation tout d'abord de ce premier ouvrage donc, auquel j'avais consacré ma thèse dans les temps immémoriaux, et puis qui donc vient d'être publié par Irmgard Müller. C'est un écrit qui se compose de 9 sections, consacrées chacune à un règne, on va dire, hein, une catégorie du créé, les plantes, les éléments, les arbres, les pierres, les poissons, les oiseaux, les animaux, par lesquels il faut comprendre les quadrupèdes, les reptiles et, pour finir, les métaux. Dans chacun de ces livres, à part le deuxième, on a une préface, une prefatio plus ou moins développée, où elle expose l'origine des créatures qu'elle va recenser et quelques-uns de leurs caractères généraux. Et puis ensuite, dans chaque livre, on a autant de chapitres que d'éléments de la création recensés. Et chacune des créatures se voit consacrer une notice binaire, hein, en deux temps, où d'abord est énoncée sa nature, qu'il s'agisse d'un végétal, d'un animal ou d'un minéral, et ensuite la liste de ses applications possibles, donc de son utilité, de ses utilités, pardon, pour l'homme, qu'il s'agisse de soigner, de se nourrir, de se vêtir, et bien sûr aussi de s'alimenter. Donc voilà pour, à très gros traits, la manière dont est constituée la physica. En ce qui concerne le traité Causae et Curae, donc les causes et les remèdes, il a, pour sa part, été édité une première fois in extenso en 1903 par Paul Kaiser, d'après un manuscrit unique et resté unique à ce jour, du XIIIe siècle, conservé à Copenhague. Et je l'ai donc réédité exactement 100 ans plus tard, puisqu'entre-temps, la recherche hildegardienne, comme vous le savez, je pense aussi, avait énormément progressé et permettait de jeter un regard différent sur ses écrits. Alors, pour sa part, il est plus difficile à décrire, mais là aussi, on peut esquisser un portrait à gros traits. Il est composé de 5 sections de différentes longueurs, dont le début dans le manuscrit correspond à des grandes initiales décorées. Mais il n'y a pas de titre, déjà, hein, dans ces sections, et on ne trouve pas non plus de traces dans ce second traité, donc, de l'ordre et de l'énumération systématique qu'on a dans la Physica, ce qui est une première différence nette entre les deux volets de l'œuvre d'Hildegarde. Un problème spécifique à ce traité tient aux rubriques. Alors, je ne veux pas entrer dans trop de choses techniques concernant le livre médiéval, mais les rubriques sont souvent copiées après le texte, ce qui n'est pas donc une chose rare. En revanche, ce qui est avéré maintenant, ce qui s'est révélé après enquête, pardon, c'est que les rubriques du Causae et Curae ont été copiées en se référant à d'autres écrits, ont été inspirées d'autres écrits pour essayer de ramener la masse quelque peu inorganisée ou difficile à organiser, difficile à percevoir, pardon, quant à l'organisation, du Kaozé et de Corée. Donc on a maquillé ou rhabillé, si vous voulez, cette œuvre, hein, je simplifie là aussi beaucoup, j'espère que je me fais comprendre, en tâchant de la munir de rubriques évoquant d'autres traités bien connus, des traités de médecine traduits par Constantin l'Africain, des traités de chirurgie. Donc de ramener ces paragraphes un peu surprenants, un peu déroutants, un peu pêle-mêle ou confus, à des rubriques, à des sections donc par ailleurs bien connues. Hein, on a essayé, si vous voulez, de rationaliser un livre qui était problématique. Et dans l'édition que j'ai donnée, que j'ai oublié d'apporter, donc je plaide coupable, j'ai donc édité les rubriques à part pour essayer de permettre une lecture du texte tel qu'il a pu être composé. Alors, donc, dans ce second traité, la structure n'apparaît pas très nettement. Hein, la structure est vraiment difficile à définir. En plus, un thème traité dans un livre est à nouveau dans un autre. Ben, c'est vraiment extrêmement différent par rapport au premier traité que j'ai décrit. Alors, dans ces grandes lignes-là encore, quelques mots quand même pour que vous sachiez de quoi je vais parler ensuite plus en détail. Il s'ouvre lui aussi sur la création. C'est pas très étonnant, à peu près tous les écrits de Hildegarde, nous allons y revenir, s'ouvrent sur la création. Elle ressasse, elle rumine à l'infini la Genèse, hein, qui est le livre qu'il a habité toute son existence. Et donc, dans la première section du traité, on trouve une cosmologie, disons, une cosmographie fondée sur la Genèse. Dans la seconde, qui est de loin la plus grosse, presque disproportionnée, c'est très difficile de synthétiser ce qui est contenu, mais en gros, elle expose toutes les maladies auxquelles l'homme peut être sujet, hein, dans un ordre, là encore, une fois, assez difficile à déceler, et qu'on a voulu justement un peu peigner, hein, un peu passer au cordeau, en le dotant donc de rubriques exogènes. Puis nous avons une troisième et quatrième section qui sont en fait des énumérations de cures susceptibles de porter remède, au traitement, et c'est ce qui justifie notamment le titre, hein, du recueil, les maladies et les remèdes. Et puis alors, dans la dernière section, la cinquième, le plus grand pêle-mêle règne. On y trouve des chapitres sur des questions générales de médecine, hein, les signes de vie, les signes de mort, le pronostic, l'uroscopie, donc la science des urines qui permettait de poser diagnostic ou prognostic, l'usage des bains également, et puis enfin, un curieux exposé d'astrologie, un lunarium, sur lequel là aussi peut-être reviendrai-je. Voilà donc pour une très très brève, hein, présentation de ces deux volets, mais qu'il s'imposait de faire, puisque les œuvres d'Hildegarde ont connu des fortunes très diverses dans le temps, que reflète bien la chronologie des éditions, par exemple. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, les causes et les remèdes n'ont été éditées qu'en 1903, extrêmement tard donc par rapport à la date de composition supposée, et même son livre visionnaire, sans doute le plus célèbre aujourd'hui, me semble-t-il, le livre des œuvres divines, à cause, entre autres, des très belles illustrations qu'il orne, n'a été exhumé et édité qu'en 1761 en Italie. Alors, la Physica, elle, a été, somme toute, éditée assez tôt, hein, à la Renaissance, en 1533, pour être précis, à Strasbourg, chez l'imprimeur Jean Schott, qui, pour la première fois, donc, lui donnait le titre de Physica Sanctae Hildegardis, hein, Physica de Sainte Hildegarde, et puis il y avait un long sous-titre que je vous épargne en latin, comme c'est souvent le cas dans les ouvrages imprimés à la Renaissance. Alors, le terme de physica est très polysémique, hein, en diachronie comme en synchronie, c'est un terme qui a de multiples acceptions, et à l'époque de Hildegarde, Abélard, par exemple, suggérait qu'il fallait comprendre par là l'ensemble des sciences ayant le monde créé pour objet, et quelqu'un comme Guillaume de Conches lui donnait une signification très proche en voyant dans la physique, hein, entre guillemets bien sûr, tout ce qui a trait aux choses naturelles et qui analyse la structure des corps. Et c'est une acception qu'on retrouve bien sûr dans la fameuse école de Chartres, hein, même si école est peut-être impropre, en tout cas chez les chartrins les plus célèbres, comme Thierry de Chartres, qui se proposait d'expliquer le texte biblique désormais secundum physicam, c'est-à-dire selon les lois de la nature, hein, pour éviter de traduire physica par physique. Et puis alors, chez un autre contemporain de Hildegarde, hein, pour terminer cette brève revue des sens du mot au XIIe siècle, Jean de Salisbury, par exemple, physica pouvait signifier aussi bien science du monde physique que médecine. Alors, science naturelle et médecine étaient évidemment très imbriquées à l'époque où nous situons, et les deux sens conviennent, hein, à l'œuvre de Hildegarde. Simplement, ce qu'il faut souligner, c'est que Jean Schott, donc l'imprimeur strasbourgeois, et le premier à nommer l'œuvre ainsi. Ce terme ne figure dans aucun manuscrit, hein, aucun des témoins qui nous l'ont conservé. On en connaît six complets ainsi qu'un certain nombre de fragments. aucun ne porte le nom de Physica, et il est très probable que c'est une invention de l'imprimeur, hein, que c'est du cru de l'imprimeur. Alors, il prend soin en tout cas, cet imprimeur sur lequel bien des soupçons pèsent, de préciser dans un avertissement au lecteur le sens justement que revêt le terme de Physica appliqué à l'œuvre de Hildegarde. Je le cite brièvement. « Avec un génie admirable, dit-il, Sainte Hildegarde a embrassé en 4 livres la physique, c'est-à-dire les natures des choses. » Alors, c'est d'autant plus probable que ce titre soit du cru de Schott que, quelques 10 ans plus tard, en 1544, ce fameux ouvrage est réédité. Toujours à Strasbourg, toujours chez Jean Schott, mais l'éditeur scientifique change. C'est désormais un médecin qui s'appelle Georg Kraut et qui associe cette fois-ci l'ouvrage de Hildegarde avec l'œuvre de la supposée médecin de Salerne, Trotula, qui maintenant, on le sait, n'a jamais existé. Une certaine Trotta a existé, mais Trotula est un titre d'œuvre. Bon, je referme cette parenthèse. Ce qui est important, c'est de voir que donc, ces deux œuvres sont désormais associées et que le titre de Physica donc, disparaît. L'édition de 1544 s'appelle Experimentarius Medicinae. Donc c'est un élément de plus qui tend à faire penser que Jean Schott a quelque peu trafiqué ou procédé à des interventions sur l'œuvre de Hildegarde. Et autre indice qui va dans ce sens, si on compare l'édition de la Renaissance au manuscrit que nous connaissons, il y a un manque cruel qui s'impose, c'est la section consacrée aux pierres précieuses. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un livre consacré aux pierres précieuses dans l'œuvre de Hildegarde. Beaucoup de gens s'en inspirent de nos jours pour se soigner. La lithothérapie hildegardienne fait fureur, en tout cas en Allemagne, mais peut-être même aussi en France, je ne sais pas très bien. Et en tout cas, ce livre des pierres est purement et simplement absent de l'édition donnée par Schott. Donc c'est une autre énormité, si on peut dire, qui fait vraiment penser que Schott a procédé à des coupes, à des modifications. On le sait d'ailleurs sur d'autres œuvres, et ce ne serait pas le seul éditeur l'ayant fait, donc paix à son âme. Il ne s'agit pas de le charger, mais de vous expliquer comment, dès la Renaissance, finalement, est mise à la disposition du public une œuvre qui est différente, probablement, de celle que Hildegarde avait écrite. Il y a un certain nombre d'énigmes liées à cette transmission de l'œuvre, mais voilà pour les principales. Alors, autre chose dont il faut évidemment maintenant parler, c'est la spécificité de notre auteur. Ce n'est pas un auteur pragmatique, ce n'est pas un auteur formé dans les écoles, c'est un auteur visionnaire, et j'ai envie de dire fier de l'être et décidé à le rester. C'est quelqu'un qui le proclame absolument à toutes les occasions qui se présentent, y compris dans ses lettres, et c'est bien sûr ce qui fait l'originalité de la science de la nature qu'elle nous a livrée. Alors, Hildegarde donc a bénéficié de visions, qu'elle a couchées par écrit, comme tant d'autres, mais elle n'a pas été une extatique, contrairement à beaucoup d'autres visionnaires du Moyen-Âge, y compris de sa contemporaine et amie Élisabeth de Schönau, par exemple. Hildegarde ne connaît pas l'extase, elle ne connaît pas la perte de conscience. C'est pourquoi d'ailleurs un certain nombre de critiques sont embêtés, ne savent pas s'il faut vraiment la qualifier de mystique ou s'il faut plutôt lui réserver le qualificatif de prophétesse, puisqu'elle se défend véritablement de sortir de son corps. Elle a des visions, mais elle y insiste jusqu'à la fin de sa vie, elle les reçoit avec un esprit en éveil. Alors voilà ce que je peux lire, ou en tout cas vous faire entendre, puisque c'est ce qu'elle dit elle-même à son dernier secrétaire, Guibert de Jambleau. Elle a désormais plus de 70 ans, elle allait mourir à 81 ans, donc elle a encore un certain temps devant elle, mais elle est déjà âgée, et elle se réexplique avec beaucoup de fermeté et de clarté sur ce qui lui arrive, donc je vous en lis un petit extrait. « Ce que je perçois et apprends dans ces visions reste longtemps dans ma mémoire, de telle sorte qu'en voyant et entendant cette lumière, je peux me souvenir sans cesser de voir, d'entendre et de savoir. Mais ce que je n'aperçois pas, je ne le connais pas, car je n'ai pas vraiment reçu d'enseignement. On m'a simplement appris à lire les lettres. Dans cette lumière, je vois parfois une autre lumière qui m'est décrite comme la lumière vivante. Je suis incapable de dire quand et comment je la vois. Mais tant que je la vois, toute tristesse et toute peur me sont enlevées. Je me sens alors comme une simple jeune fille et non comme la vieille femme que je suis. » La clause finale est touchante, alors c'est pour ça que je l'ai lu. Donc, Hildegarde vit des visions, les yeux ouverts en quelque sorte. Elle ne connaît absolument pas le ravissement, la transe, la perte de conscience. Et le message que la divinité lui envoie est transmis par le truchement d'un secrétaire qui est en même temps un confident et un témoin, dont le principal est le moine Volmar, qui l'assiste presque jusqu'à la fin de sa vie. mais en fait Hildegarde va survivre à Volmar. Alors, tout ça pour rappeler donc une donnée très très importante pour comprendre cet auteur. Hein. Hildegarde est visionnaire, Hildegarde est frottée de théologie, entre autres grâce à la ruminatio qui constitue la culture monastique de l'époque, et elle avait fait sienne véritablement la louange du psalmiste « Grandes sont les œuvres de Yahvé, dignes d'étude pour qui les aime ». Et c'est ainsi que dans l'ensemble de son œuvre, en fait, elle a glorifié la nature et concilié amour de Dieu et désir de savoir. Elle porte donc sur la nature un regard à la fois curieux et émerveillé, hein, une volonté de savoir, mais en même temps une admiration que l'on perçoit à chaque ligne par lesquelles elle décrit ce qui l'entoure ou ce qu'elle veut transmettre aux hommes. Alors, elle y voyait bien sûr, selon un autre livre biblique, hein, le livre de la sagesse, un univers dominé par l'ordre, l'harmonie, la proportion. Ça, je n'ai pas le temps de le citer, mais je vous y renvoie si ça vous intéresse. Hein, dans le livre des œuvres divines, il y a de très très longues visions accompagnées de miniatures consacrées aux proportions régissant le cosmos ou le corps humain, par exemple, hein, dans lesquelles elle détaille la mesure, l'ordre, l'harmonie qui sont à la base de tout le créé. Et tout se passe un peu comme si Hildegarde, dans l'œuvre proprement naturaliste qu'elle entreprend de faire, voulait traverser les apparences, en quelque sorte, pour atteindre le sens caché de certains êtres dont elle a entrepris, grâce à Dieu, de révéler les subtilités, hein, ce qui explique donc le titre de son œuvre naturaliste. Alors, ce fameux livre des subtilités s'ouvre sur ces mots. « Lors de la création de l'homme, une terre particulière fut tirée de la terre, c'est l'homme. Et la terre fournissait sa verdeur, selon l'espèce et la nature et les mœurs et tout l'environnement de l'homme. En effet, la terre, avec ses plantes utiles, offre un panorama des fonctions spirituelles, mais avec ses plantes inutiles, elle fait apparaître ses fonctions mauvaises et diaboliques. » Alors, autre citation, mais il me semble que mieux qu'un long discours, ces quelques lignes introduisent véritablement au cœur de la vision hildegardienne du créé, avec cette force de la Genèse comme système de référence. L'évocation d'une nature dont le diable n'est pas tout à fait absent, hein, ce qui va justifier le recours à certains procédés ou à certaines formules de bénédiction. Et puis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'y reviendrai, les regards un peu croisés ou complémentaires de la naturaliste et de l'exégète, hein, qui ne se séparent finalement jamais. Et l'arrière-plan théologique est véritablement donc cette toile de fond à travers laquelle elle décrit toute chose, hein, y compris la mandragore, par exemple, dont elle parle en disant qu'elle est née de la terre avec laquelle Adam a été créé. Ou, par exemple, la formule qu'elle propose pour remédier à la tristesse en utilisant une mandragore et qui consiste en la petite prière suivante. « Dieu, toi qui as créé l'homme avec le limon de la terre sans mettre en lui de la douleur, voici que je place à côté de moi cette terre qui n'a jamais péché pour que la terre dont je suis composée connaisse l'état de paix qui est en elle et dans laquelle tu l'as créée. Hein, » donc, Hildegarde, en gros, ne perd vraiment jamais de vue l'équivalence entre le limon et l'homme posé par Dieu au commencement. Hein, c'est quelque chose qu'elle ne quitte pas, même quand elle a l'air de poser un regard donc quelque peu différent, plus rationnel, pour utiliser un mot un peu anachronique, sur ce qui l'entoure. Alors, de ce point de vue-là, la Physica, ou Livre des subtilités, a de très nombreux points communs avec d'autres encyclopédies médiévales, hein, à commencer par son titre, qui la rattache à la lignée ou à la tradition des traités sur la nature des choses. Alors, c'est vrai qu'elle ne parle pas de choses, elle parle de créatures, et c'est une belle différence. Mais en même temps, on peut quand même considérer qu'elle est une héritière de la tradition de l'Hexaméron, hein, le commentaire de l'œuvre des six jours, qui a été inauguré en Occident par Saint Ambroise. Effectivement, Hildegarde partage avec de nombreuses autres encyclopédies la volonté d'épuiser le réel, en quelque sorte, secundum creationem, hein, en le nommant et en le classant. Et ce désir de complétude, d'exhaustivité, l'amène même à recenser des choses dont elle ne sait pas exactement le nom. Hein, à propos de certaines plantes, d'humbles herbettes, elle dit à propos de l'herbe sur laquelle pousse telle chose. Donc elle ne sait pas le nom, mais ça existe. Ça mérite donc d'être mentionné et recensé. Voilà. Donc en un sens, elle s'inscrit dans une tradition prégnante et qui, bien sûr, lui survit. Et en cela, elle n'innove pas. Ce en quoi elle innove, en revanche, et ça on va y revenir aussi, je pense, hein, c'est en ce qui concerne le monde animal, dont elle a une connaissance tout à fait singulière, en ce qui concerne l'ordre dans lequel elle présente les différents animaux, c'est en général, jusqu'à elle, la séparation selon les éléments qui étaient le plus fréquemment adoptés. Et donc, elle inaugure en lançant un ordre qui sera repris par la suite au XIIIe siècle, principalement par Vincent de Beauvais, par exemple, ou Brunetto Latini. Donc là, elle marque un début, mais je répète, en ce qui concerne l'organisation, la disposition, l'ordre. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Hildegarde fut une encyclopédiste comme les autres, pour autant ? L'élément de base de l'encyclopédie, au Moyen-Âge, c'est la citation, c'est le recours aux autorités, aux auctoritates. Et de ce point de vue, en fait, le principal rôle de l'encyclopédiste consiste à organiser ou réorganiser une matière qui préexiste. Et pour ça, on peut penser à une œuvre composée pas très loin de là où elle vivait, et peu de temps également après. Je pense au Jardin des délices, composé par la chanoinesse Hérade de Landsberg, par exemple, alias Hérade de Hohenburg, qui est véritablement une œuvre de compilatrice d'encyclopédiste. Alors, là, il y a une différence de taille qui, évidemment, s'impose tout de suite, c'est que Hildegarde est un cas limite d'encyclopédiste, dans la mesure où elle ne cite strictement personne. Alors que tous les autres encyclopédistes ont pour tâche de rassembler un certain nombre d'autorités et de les ordonner ou de les agencer correctement, Hildegarde garde un silence total sur ses sources. Et elle va même, dans son livre de la vie des mérites, qui est une de ses autres œuvres visionnaires, qu'elle achève en 1163, elle va même donc jusqu'à attribuer une vision divine, l'origine de son exposé sur les créatures. Alors là encore, je la cite parce que cela mérite d'être entendu. Voilà ce qu'elle nous dit. « Cela arriva la 9e année après la fin de cette grande vision véritable qui avait révélé au simple être humain que je suis les visions véritables sur lesquelles j'avais sué pendant 10 ans. C'était la première année depuis que cette même vision m'avait dévoilé, pour que je les explique, les subtilités des différentes natures des créatures. » Donc on reconnaît là le titre supposé de son œuvre naturaliste. « Les réponses et les conseils aux grands comme aux moins grands. » Ça, c'est sa correspondance. « La symphonie de l'harmonie des révélations célestes. » Là, ça renvoie à son œuvre musicale, disons. « La langue et les lettres inconnues, ainsi que d'autres exposés, sur lesquels, accablé de douleur et de souffrance après les visions dont j'ai parlé, j'avais peiné 8 ans durant. » Donc, voilà un prologue qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Hildegarde veut être redevable de ce qu'elle dit et de ce qu'elle sait à Dieu seul. Et plus encore que de revendiquer une sancta ignorantia, comme un saint Benoît, elle affiche clairement son refus de toute culture humaine, qui est en un sens un topic de la littérature, disons, mystique. Alors ça, c'est... Là, je vous ai cité le prologue donc, du livre de la vie des mérites, qui date de 1163, mais dès la fin du Scivias, qui est sa première œuvre qu'elle termine en 1151, c'est exactement en ces termes que se pose la question de son accès à la connaissance. Et une des premières donc, différences qui s'impose au lecteur, si on compare Hildegarde à d'autres encyclopédistes, c'est que beaucoup disent combien de temps leur a coûté la composition du livre. En termes d'années, mais c'est la seule à l'évoquer en termes de souffrance, puisque les visions qu'elle recevait lui valaient des souffrances. Alors, peut-être, est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est pensable, comment nous situer par rapport à de telles assertions ? Peut-être qu'elle péchait par réticence, tout simplement, en s'affirmant vierge de tout savoir humain, et peut-être qu'elle sous-entendait qu'elle n'avait puisé que dans la Bible, puisqu'après tout, la Bible pouvait être tenue pour un livre entièrement dicté par l'Esprit-Saint, donc ne devant rien aux hommes, et être considérée comme l'encyclopédie par excellence, dans laquelle on pouvait puiser toutes sortes de connaissances. Cela dit, l'inspiration seule, fut-elle divine, fut-elle biblique, ne peut pas être la source de toutes les connaissances naturalistes, disons, dont Hildegarde fait preuve, en particulier zoologique. Même la Genèse, qui lui est si chère et qu'elle ressasse tant, ne peut expliquer la justesse de ce qu'elle nous dit du frais des poissons, par exemple, ou du comportement du chien. Ça, clairement, ce n'est pas là qu'il faut chercher la source d'un tel savoir. Et de fait, l'œuvre qu'elle nous a livrée fourmille d'informations qu'apparemment, seule l'observation a pu lui fournir, et qui a amené un certain nombre de spécialistes, dont mon bon maître Robert Delors, à saluer en elle la première zoologue du Moyen-Âge chrétien. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant que le rôle de l'observation dans son œuvre serait l'exact pendant de son refus du savoir livresque ? Il faut, pour apprécier l'opposition, se rappeler avec Michel de Boire que pour les encyclopédistes de la période, plusieurs voies d'accès à la connaissance s'offraient. On avait effectivement l'observation des créatures pour elles-mêmes, en elles-mêmes. On pouvait également observer les créatures comme dépositaires d'un message du créateur, hein, donc comme renvoyant à quelque chose d'autre qu'elles-mêmes. Et puis, dans la voie d'accès à la connaissance de ces époques reculées, il ne faut pas non plus oublier le rôle de l'étymologie, hein, qui passait pour une source de connaissance sur les choses, et bien sûr, le recours livresque aux autorités. Alors, selon les auteurs, une de ces voies était privilégiée au détriment des autres, et on oppose donc le plus souvent le savoir des livres à l'observation directe, en estimant que l'essor véritable de l'observation se situerait au XIIIe siècle, avec quelqu'un comme Albert le Grand, par exemple, hein, qui est considéré comme le premier homme de science, le Naturwissenschaftler du Moyen-Âge. Avec cela dit, une petite nuance quand même qu'il faut ici rappeler, c'est pas parce qu'un Albert le Grand a fait preuve pour la première fois d'abord de la lecture d'Aristote et puis de connaissances effectivement zoologiques ou biologiques d'affaires remarquables, qu'il excluait le poids des autorités. Hein, je pense notamment à sa description de la baleine, où au milieu d'une description fourmillant de traits justes et scientifiquement toujours valables, il est capable d'écrire que l'œil de la baleine est si grand qu'elle peut contenir 15 ou 20 hommes. Hein, donc là, on voit qu'on n'arrive pas complètement, si vous voulez, à se débarrasser d'autorités éminemment respectables, et que dans ces cas-là, même l'observation la plus innovante ne pouvait pas l'emporter. Bon, je referme là aussi cette petite parenthèse, mais Hildegarde et Albert sont souvent associés. Alors, est-ce qu'Hildegarde donc peut être considérée comme une pionnière, hein, une de celles qui auraient donné des signes avant-coureurs de cet essor du regard immédiat porté sur la nature environnante, qui évidemment va caractériser ensuite l'évolution des sciences naturelles. Si on se penche sur un certain nombre de sections de son œuvre naturaliste, la chose semble s'imposer. Et là, je n'en donnerai qu'un exemple pour ne pas vous lasser, vu l'heure et le caractère tardif de l'année, mais je parlerai de la faune aquatique, par exemple, dans laquelle, visiblement, elle a livré la première des informations dont on ne disposait pas jusque-là et dont on ne disposera pas pendant encore longtemps. Alors, elle connaît visiblement très bien le monde des poissons. Hein. Et ça peut s'expliquer par pas mal d'aspects. D'abord, des raisons géographiques, topographiques. Hein. Elle a passé sa très longue existence dans deux cloîtres situés au bord du Rhin. Et puis, on n'oubliera pas non plus qu'en tant que bénédictine, les exigences de la vie monastique l'amenaient tout de même à être assez souvent en contact avec le poisson. Donc déjà, ce sont des facteurs qui peuvent l'expliquer. Mais à part donc ces anecdotes, on va dire, elle semble effectivement avoir connu le monde des poissons au moins aussi bien que celui des plantes. Et ce qui est tout à fait frappant pour la critique qui s'en est emparée, c'est l'ancrage local du livre des poissons qu'elle a livré à la postérité, puisque une trentaine d'espèces sur 36, je crois, sont présentées sous leur nom vernaculaire, germanique, et la plupart se retrouvent justement ensuite chez Albert le Grand, et ont survécu, par exemple, dans la région de Bâle. Donc on a bien l'impression d'avoir là un témoignage direct, une tranche de vie, on pourrait dire, ou en tout cas quelque chose qu'elle ne doit absolument évidemment pas à des lectures. Alors je passe sur le rôle du poisson dans d'autres endroits de son œuvre, parce que j'ai peur de déborder affreusement l'horaire. Quoi qu'il en soit, donc, ce livre des poissons de Hildegarde a été vraiment salué comme un témoignage unique sur la faune du Rhin, et inégalé jusqu'au Fischbuch de Gessner. Hein, c'est-à-dire que jusqu'au XVIe siècle, rien n'aurait égalé la qualité des renseignements, l'originalité aussi des renseignements rassemblés par Hildegarde, qui, comme je l'ai dit, donc, nous renseigne sur des espèces aujourd'hui disparues parfois, raréfiées dans le Rhin ou ses affluents, et puis qui était capable de décrire la manière dont se situaient les poissons dans la hauteur des eaux, la manière dont ils frayaient, enfin véritablement de donner des renseignements qui avaient l'air d'être issus d'une observation directe, l'habitat, le mode de reproduction, le rapport à la lumière aussi, qui sont des critères que les ichtyologues modernes considèrent toujours comme fort importants. En outre, ce livre 5, sur lequel je ne veux pas vous ennuyer, mais enfin qui est véritablement remarquable, concilie science du particulier, dans les détails qu'elle est capable de donner pour chaque espèce, et en même temps connaissance de l'espèce en général. Hein, on a une préface théorique tout à fait originale pour l'époque, et qui la distingue, si vous voulez, à la fois des traités contemporains qui, eux, ne sont capables de donner que des généralités théoriques. Je pense, par exemple, à la littérature diététique contemporaine, qui parle des poissons en évoquant leurs bienfaits, au contraire leurs méfaits pour l'alimentation, mais d'une manière du coup générale. Et en revanche, elle se distingue aussi des études de cas stricto sensu, hein, des pures accumulations de monographies. Elle est capable de concilier donc l'espèce et le genre, le général et le particulier, l'individu et le monde des poissons. Donc ça, c'est véritablement un des exemples probants, frappants, qui a invité des générations entières de chercheurs à dire que oui, Hildegarde avait observé tout cela et que c'était le fruit de son expérience personnelle. Alors, est-ce que ça met complètement hors jeu les sources livresques, hein? J'aurais pu aussi parler des plantes, mais j'ai peur véritablement d'être très barbante, donc je m'en tiens aux poissons en insistant lourdement sur le caractère, donc clairement, observer que cela dénote. Est-ce que, donc, on peut en déduire pour autant qu'elle s'est complètement passée des livres et qu'elle a éventuellement regardé elle-même ou rien du tout? Alors, il faut dire aussi ici, mais je serai plus rapide, pour en revenir aux voies d'accès à la connaissance qu'évoquait Michel Debord, que même l'étymologie n'est pas inconnue d'Hildegarde. Hein. Et dans son traité de sciences naturelles, elle est tout à fait capable d'expliquer des créatures, animales ou végétales, le plus souvent, par leur nom, qu'il s'agisse de leur nom en allemand ou en latin. Alors, je n'entre pas dans les détails, là encore, faute de temps ou de peur d'abuser de votre gentillesse et patience, hein, mais même cette voie d'accès à la connaissance, de toute façon, ne l'est pas inconnue. Et évidemment, impossible qu'elle n'ait pas connu Isidore de Séville, hein, qui est quand même associé à ce mode d'accès à la connaissance des choses. Alors, Isidore de Séville, ou la version qui en était dérivée, qui a été composée au tournant du XIe et du XIIe siècle en Allemagne, justement, hein, et qui s'appelle le Summarium Heinrici, qui proposait donc une espèce de lecture abrégée, digéré, si vous voulez, maniable, des étymologies d'Isidore, et qui a eu un succès foudroyant en Allemagne, au point qu'une errate, par exemple, s'est énormément appuyée dessus, et non pas sur Isidore lui-même, et au point aussi qu'un de mes autres collègues allemands, Rainer Hildebrand, considère que le Summarium Heinrici a peut-être été le livre de chevet de Hildegarde. Alors, la formule est un peu exagérée, mais c'est pour dire combien ce travail a pu aussi quand même contribuer à répandre l'approche étymologisante d'Isidore. Alors, une question aussi qu'il faut se poser, qu'on se pose et pour laquelle on n'a pas toujours d'armes pour trancher. Est-ce qu'elle a lu personnellement certains auteurs? Ou est-ce qu'elle n'en a eu qu'une connaissance indirecte, s'y expliquerait ses protestations d'ignorance en disant qu'elle ne sait rien, qu'elle n'a jamais appris ou très peu? Il faut ici rappeler qu'elle travaillait entourée de collaborateurs, hein, absolument pas seule. Vous avez peut-être déjà vu des images la représentant, recevant le feu de la révélation divine avec à côté une moniale ou un moine notant ce qu'elle proférait, enfin ce qu'elle disait. Elle avait également de très nombreux correspondants. Et puis c'est une femme qui a une vie singulière pour une cloîtrée, puisqu'elle a quitté son cloître au moins à 4 reprises pour des tournées de prédication. Bref, elle n'a pas manqué, si vous voulez, de moyens d'échange, hein, de contacts, notamment culturels. Et il est évident que ses façons de penser, de toute façon, évoluaient au cours de sa longue vie, puisqu'elle en témoigne elle-même. Alors là encore, je dois la citer. Parce qu'il y a un exemple qui est tout à fait frappant de cela et qui nous invite à penser qu'elle est entrée en contact avec des sources nouvelles d'informations qui l'ont amenée à réviser un certain nombre de choses. Elle se représentait l'univers dans son fameux Skivias, hein, vers 1140-1150, comme une roue. Et ça aussi, ça a été immortalisé par des miniatures. Or, 30 ans plus tard, dans le livre des œuvres divines, elle se représente désormais comme un œuf. Et dans la deuxième vision, de cet ouvrage, elle dit clairement, hein, je me le représente comme une roue et non plus comme un œuf, comme c'était le cas 28 ans plus tôt dans la troisième vision du livre Skivias. Donc elle reconnaît clairement, expressément, que quelque chose a changé, qu'elle est venue à reconsidérer cette conception. C'est vrai que l'analogie entre œuf et monde était assez répandue, hein, elle remontait à Ovide, elle était très répandue au XIIe siècle, mais là, elle avoue, si vous voulez, hein, ou l'entérine, le fait que quelque chose est intervenu, quelque chose l'a fait changer d'avis, en tout cas de conception. Alors c'est là qu'il faut que je dise un petit mot de la question des sources et de l'état actuel de la recherche, sans là non plus vous endormir avec des litanies de noms d'auteurs, mais ces dernières années notamment, des parallèles de plus en plus nombreux quand même ont pu être établis avec des auteurs qui ont pu nourrir sa pensée. Et on est même allé jusqu'à mettre au jour des points de contact plus que probables entre Hildegarde et la médecine la plus contemporaine, disons, de son époque, celle qui se faisait notamment à Salerne, hein, dans les milieux salernitains dont vous avez dû entendre parler. Alors, je ne vais pas trop énumérer, parce qu'il n'y a rien de pire que les catalogues. Ce que je veux simplement rappeler, c'est les problèmes de méthode que Hildegard nous pose et qui font qu'on peut s'intéresser à elle pendant 20 ans ou 25 ans. Elle est un cas donc particulièrement épineux, hein, vous l'aurez compris, elle ne veut être redevable absolument à personne. Et effectivement, il est très difficile dans son cas de faire le départ entre les sources certaines et les sources problématiques, et même entre les sources primaires et les sources intermédiaires, hein, puisqu'il faut se rappeler par exemple l'existence de florilèges à l'époque où elle vécut, qui pouvaient transmettre donc sous forme abrégée, ramassée, plus efficace, un certain nombre de connaissances. Donc, pour être honnête, tous les éditeurs scientifiques qui sont attelés à donner de nouvelles éditions des textes de Hildegard devraient plutôt parler de similia que de sources, hein, parce qu'il est extrêmement rare qu'on trouve une similitude textuelle, une citation textuelle. Il n'y a guère que la Bible qu'elle cite absolument mot pour mot. Pour le reste, on trouve des analogies. Alors, cela dit, ces analogies ne peuvent absolument pas être balayées d'un revers de main. Et on a de plus en plus, si vous voulez, de lectures possibles pour l'abbesse, qu'on a reconstitué comment? Eh bien, en s'appuyant, bien sûr, sur l'histoire de la transmission des textes, l'histoire des manuscrits et l'histoire des bibliothèques qui pouvaient être disponibles pour Hildegard ou entourer ses secrétaires et ses collaborateurs. Pardon. Alors, cette liste est désormais relativement impressionnante, et pour vous en faire une idée, j'aurais dû faire un PowerPoint avec la liste, je m'en rends compte. Je vous renvoie tout simplement aux apparats critiques des éditions récentes dont elle a fait l'objet, notamment dans le corpus Christianorum, chez Brepols. Alors, une des sources importantes de ces connaissances a pu être constituée, par exemple, par les pères de l'Église. Hein. On pouvait trouver chez Grégoire de Nyssa, chez Grégoire de Nazianze ou chez Basile des connaissances même physiologiques, hein, puisqu'ils étaient imprégnés d'un certain galénisme qui ont pu nourrir la réflexion de Hildegard sur le corps ou sa description des corps. On a pu également mettre au jour des rapports assez peu contestables entre Hildegard et Bède le Vénérable, par exemple, ou Rabban de Mort, hein, c'est-à-dire des passages véritablement trop parallèles, pour être honnête, même si, là encore, la similitude absolue lexicale ne se laisse jamais constater. Autre exemple, très probant, Jean Scott Erigène, qui a visiblement imprégné, informé sa vision du monde, sa vision du cosmos, et dont on peut repérer l'influence à la fois dans les écrits strictement scientifiques que je présente ce soir, ou dans les livres visionnaires, comme le livre des œuvres divines, pardon, dont j'ai dit un petit mot. Et puis, bien sûr, des auteurs antiques comme Pline, comme Ovid, qui là encore ont pu être connus d'elle de différentes manières, hein, florilèges, citations dans des œuvres, également conversation. Il y a toute une part d'oralité qui nous est évidemment perdue à jamais, mais qu'on ne peut pas négliger. Et on a pu aussi montrer, par exemple, des emplois à peu près certains chez les agronomes latins, en matière notamment de ce qu'elle dit de plantation, hein, puisqu'il y a toute une section consacrée à la manière dont il faut tailler ou planter telle ou telle espèce, ou de ce qu'elle dit de médecine vétérinaire, dont on trouve des antécédents probables, possibles, dans un certain nombre d'auteurs. Alors ça, je passe, quitte à y revenir après dans la discussion, ça me semble plus intéressant. J'insisterai juste sur deux choses. Isidore de Séville, donc, comme je l'ai dit, a l'air d'avoir joué un rôle fort important dans l'irrigation que l'on peut constater dans l'œuvre de Hildegard d'un certain nombre de connaissances, notamment animalière. Hein, le fameux savoir zoologique qui la distingue quand même, qui la met véritablement à part, a pu aussi être enrichi par Isidore, lui-même s'étant largement nourri du Physiologus, hein, une compilation alexandrine qui délivrait un certain nombre de connaissances quand même sur le monde animal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, Isidore lui-même a pu lui parvenir sous la forme de ce fameux Summarium Heinrici si répandu. Et puis, autre chose quand même que je me dois de dire pour la complétude, même si c'est rapide, c'est donc l'écho étonnant, hein, d'œuvres parfois fort contemporaines que l'on peut trouver dans les écrits de Hildegard, sans lesquels sinon on ne pourrait absolument pas expliquer telle ou telle conception, notamment un certain nombre donc de traductions ou de traités médicaux nouvellement apparus autour du Mont Cassin ou de Salerne, et très vite répandu dans l'Europe du Nord, quand même. C'est ça qui est formidable pour l'époque qu'on situe, c'est la rapidité avec laquelle les choses neuves se propagent et vont influencer des hommes largement septentrionaux par rapport au point de départ. Alors là aussi, je me censure, mais il y a un certain nombre d'exemples comme cela qu'on a mis petit à petit en évidence, hein, notamment les fameuses questions salernitaines, qui étaient des recueils de questions médico-naturalistes, justement, débattues à Salerne, hein, qui formaient la base de l'enseignement médical à Salerne, qui ont été très très tôt connues, là encore, en Europe du Nord. Un Adélard de Basse, par exemple, en atteste bien. Et en fait, il y a des échos probables, hein, de ces fameuses questions dans le Causé et de Courlay. Alors, je m'excuse donc de sabrer, mais c'est mieux quand même que d'énumérer des choses. J'espère que vous me croirez sur parole. Hein. Il y a une longue liste désormais d'auteurs dont Hildegarde a pu avoir connaissance, mais je répète, sans qu'on soit certain des modalités d'accès à ces connaissances. Hein. On n'a pas de lettres attestant une demande d'emprunt d'ouvrage, on n'a pas évidemment trace de conversation, et on ne peut qu'extrapoler d'après ce qu'on sait de la présence de tel ou tel livre dans des abbayes proches avec lesquelles on sait par contre qu'elle avait des liens. Hein. Ça, on se fonde sur ce genre de choses. Ou pour donner un autre exemple, on sait qu'une de ses connaissances, hein, l'évêque Sivard d'Uppsala, qui a séjourné dans son monastère dans les années 1138, possédait le Physiologus, par exemple. Donc ça peut être quand même quelque chose de tangible à partir duquel on peut imaginer qu'au cours de conversations avec ce saint homme, elle a pu s'imprégner de connaissances. Et puis évidemment, dans le cas de Hildegarde, mais ce ne serait pas la seule, comme dans celui de Hérade, les collaborateurs ont pu jouer un peu le rôle, si vous voulez, de rabatteur d'informations, hein, c'est-à-dire de lui amener les idées neuves, les informations neuves qui circulaient. Et là, donc, j'y insiste, c'est quelqu'un qui avait une liberté de mouvement et un monastère fort ouvert au monde extérieur. Ce n'est pas le cas pour toutes les femmes bénédictines, bien sûr, de l'époque. Alors, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que même quand on se dit, voilà, cette idée, elle n'est que là, et donc forcément, c'est de là qu'elle doit venir, de toute façon, elle la reformule. Hein, c'est-à-dire que systématiquement, un peu comme le lion des bestiaires qui efface ses traces avec sa queue, Hildegarde reformule. Elle ne va jamais reproduire à l'identique quelque chose, même quand il est à peu près incontestable que l'idée ne peut venir que de tel ou tel endroit. Et c'est frappant, par exemple, pour le Physiologus. Hein, il y a vraiment des lieux à propos de ce qu'elle dit sur les animaux, ça ne peut venir que de là, mais jamais, jamais, ça n'est formulé dans les mêmes termes. Donc, de toute façon, Hildegarde revendique une grande indépendance, ça c'est vrai, par rapport à la littérature qui a précédé, donc par rapport à ce fameux savoir humain, hein, dont elle dit ne pas du tout dépendre dans un certain nombre de lieux. Donc, ce qui est sûr aussi, c'est qu'Hildegarde n'est vraiment pas une compilatrice. On ne peut absolument pas la ranger dans cette catégorie, contrairement à Hérade. Mais en même temps, donc, l'observation directe ne peut suffire à rendre compte de l'ensemble de ses connaissances. Hein. Il y a un subtil mélange, un subtil dosage de ces différentes manières de s'informer. Et ce n'est pas non plus, bien sûr, une science infuse. Hein. Un certain nombre de choses, je répète encore une fois, sont trop précises, trop documentées pour avoir été dictées par une vision quelle qu'elle soit. Alors, une dernière question qu'il faut se poser, qui fait aussi la singularité et le caractère fort attachant de ce qu'elle nous a livré, cette fameuse observation, hein, qui est indéniable dans un certain nombre de lieux, j'ai parlé un peu longuement des poissons, j'aurais pu parler des plantes, je peux parler aussi du corps féminin, par exemple, en ces termes, où elle donne des descriptions, voilà, documentées, plausibles, véraces, tout ce que vous voulez. En même temps, cette observation est une observation extrêmement particulière, puisque Hildegarde, notamment dans son livre des subtilités, ne prend jamais la peine de décrire physiquement ce dont elle parle. Hein, il n'y a absolument jamais de description de l'aspect des choses. Jamais elle ne dira, je sais pas moi, le chameau est un animal de telle taille, avec telle bosse. Jamais. Hein, on n'a absolument aucune description physique. Et un des manques les plus frappants à la lecture de ses écrits, c'est le manque de couleur. Hein, quand on connaît par ailleurs le monde bariolé, extrêmement coloré, saturé presque parfois de couleurs toutes fortes en symboles de ces visions, il y a là un contraste tout à fait saisissant, hein, entre l'aspect terne un peu de la réalité qu'elle décrit dans ses œuvres médico-naturalistes et l'aspect, je répète, donc éminemment coloré de ses écrits proprement visionnaires. Alors, il n'y a pas du tout de couleur, mais simplement par rapport à des éléments à propos desquels on les attendrait, comme les pierres précieuses, par exemple, qui figurent aussi dans ses visions, hein, qui sont si souvent convoquées dans ses visions, ou le lys et la rose qui figurent et dans ses visions et dans ses écrits naturalistes, on n'a pas la description physique que l'on pourrait attendre. Donc, en fait, dans la Physica, on a quelques rares mentions de couleur avec des significations précises, mais elles sont véritablement extrêmement restreintes. La seule couleur, finalement, qui ait l'air d'apparaître dans cette œuvre, c'est le vert, c'est-à-dire le viridis, hein, la viriditas, qui est un concept clé de sa vision, en fait, du créé et du monde. Ce n'est pas que la verdeur, hein, c'est la force qui fait pousser toute chose, c'est la force germinative, c'est la force de reproduction. Donc, il est difficile, en fait, de la traduire. Il vaut mieux peut-être dire viridité, en revenant au latin, et c'est un concept à la fois central et qui est justement, d'une manière assez troublante, également central dans des questions salernitaines qu'on discute à la même époque. Là aussi, je ne peux pas m'y étendre, mais il y a quelque chose d'assez frappant. Enfin, il y a un point commun assez frappant entre les deux choses. Alors, donc, il y a cette absence de description dont il faut essayer de rendre compte. Évidemment, ce n'est pas parce que Hildegarde manquait de la représentation de ce qu'elle décrit, sauf dans quelques cas. Effectivement, elle n'a peut-être jamais vu de lion, elle n'a peut-être jamais vu de chameau. Mais en revanche, les petits poissons du Rhin ou de la Nahe dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou telle plante, elle les avait sous les yeux, donc ce n'est pas l'absence des objets qui fait qu'elle ne donne pas une représentation. En fait, c'est sans doute, là encore, l'expression d'un choix, hein, d'un choix délibéré mais pas expliqué. On a pu imaginer qu'au début, son œuvre aurait été illustrée et qu'elle se serait dispensée de décrire. C'est une jolie hypothèse, mais rien ne vient étayer. Donc, on la garde comme telle, hein, comme une hypothèse. Mais je pense plus sérieusement que c'est délibérément, en liaison avec sa conception de la création, de la nature, que Hildegarde, en fait, ne se laisse pas retenir par l'aspect des choses, tout simplement, et a un autre projet en tête. Hein. Si on en revient une dernière fois, là, à ces fameuses voies d'accès que De Boer avait distingué dans les encyclopédies médiévales, dans ce vaste genre des encyclopédies, eh bien, on peut donc dire qu'Hildegarde, certes, observe, mais qu'elle porte sur les choses un regard orienté, dans lequel elle va essayer de glisser sur l'aspect, si je puis dire, pour essayer donc d'atteindre aux fameuses subtilitates, hein, c'est-à-dire aux vertus cachées, aux choses de l'intérieur, des choses que l'homme du commun ne peut connaître et qu'elle peut révéler, et qu'elle, grâce à la vision divine, peut révéler, peut faire connaître. Alors, au fondement, si vous voulez, de cette conviction qu'elle peut révéler, il y a l'idée que la création est éminemment bonne. Hein, évidemment, le regard qu'elle jette sur le créé est, je vous l'ai dit tout à l'heure, curieux et émerveillé, et ce, malgré la chute, hein, même cette affreuse chute dont elle parle, pourtant abondamment, n'a pas empêché que la création reste bonne, pardon, et c'est ce que prouvent, par exemple, les vertus qu'elle prête même à certains reptiles. Hein, elle reconnaît que dans certains reptiles, qui était une catégorie d'animaux pourtant éminemment atteinte et corrompue par la prévarication d'Adam, il y a des choses bonnes à tirer pour l'homme. Donc, ce qu'elle fait, en fait, dans cette œuvre qu'on appelle médicale ou naturaliste, peu importe, c'est qu'elle se sent investie d'une mission en tant donc que prophétesse jouissante vision, redonner à l'homme les clés, disons, d'une nature bonne qu'il a perdue. Et cette entreprise, hein, qu'elle se sent donc investie de la mission d'accomplir, va s'accompagner donc d'une remise en ordre, hein, qui peut expliquer l'entreprise de classification, des dénominations, de rangement à laquelle elle procède, en particulier donc dans cette physica que j'ai décrit très brièvement tout à l'heure. Donc dans ces différents livres, elle ordonne, elle subdivise, elle hiérarchise, hein, du meilleur au moins bon, du plus gros au plus petit pour les animaux, etc. Mais ces subdivisions ne sauraient de toute façon masquer la cohérence et l'unité de la création, qui est véritablement une idée force de Hildegarde. Et c'est ce qu'elle met en évidence en établissant des relations entre des créatures, soit appartenant à une même classe, disons, soit même d'une catégorie à l'autre. L'homme, notamment, l'homme en particulier, est, là je la cite encore, la clôture des merveilles de Dieu. Hein, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux accompli par Dieu. Elle l'appelle le plenum opus dei. Mais l'homme doit se souvenir qu'il n'est qu'une créature parmi d'autres. Et donc, il y a autant à prendre qu'à apprendre de cette nature qui l'environne et dont il n'est pas fondamentalement différent. Et c'est pourquoi Hildegarde prend un certain soin, si vous voulez, à souligner tout ce que nombre d'animaux peuvent avoir en eux de la nature de l'homme. Hein, tente de recréer les liens ou de réinstaurer le lien dont la fracture de la chute a pu faire perdre jusqu'à l'idée, ou en tout cas le souvenir. Alors, je ne peux pas là aussi trop m'étendre, mais ce qui est frappant quand on la lit, c'est par exemple la manière dont les animaux se font écho. Hein, et les animaux semblent surtout dépositaires d'un savoir que l'homme a perdu et qu'elle essaie de lui redonner. C'est-à-dire que très fréquemment, on trouve chez elle la mention de telle herbe de vie, de telle herbe de survie, de tel caillou de fécondité. Alors, je les énumère vraiment en vrac et sans aucun ordre. Que les souris, que les belettes, que les poissons possèdent, et qu'elle tente donc de redonner à l'homme en fonction de la mission prophétique dont elle est investie, y compris donc en matière d'explication du monde qui les environne. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'elle innove, elle sera reprise et qu'elle elle est fondamentalement animée par une vision, donc, je répète, optimiste hein, de la création et de son histoire, malgré une nostalgie hein, qu'on ne peut pas non plus nier et malgré une déploration de la chute qui prend une certaine importance. Et elle considère, par exemple, d'une manière tout à fait originale, la naissance de la forêt. Hein, la forêt, d'après elle, n'a pas toujours existé. La forêt a une histoire, pour reprendre là aussi un titre bien connu, et la forêt n'est apparue qu'avec le déluge pour séparer hommes et bêtes qui avaient tendance à se mélanger un petit peu trop, oublieux donc de ce dieu dont ils étaient l'image. Alors ça, c'est une idée. Quelle est la première apparemment à formuler de cette manière, qui sera reprise justement par un Alexandre Neckam à la charnière entre 12e et 13e siècle. Mais cette forêt est fondamentale parce qu'elle permet à Hildegarde donc de remettre en quelque sorte l'homme à sa place, hein, à sa juste place dans la création, en dressant entre lui et le monde animal une barrière plutôt symbolique qu'autre chose, en lui rappelant au contraire qu'il peut renouer avec les animaux qui l'entourent en apprenant des choses. Hein, donc en apprenant, comme je vous l'ai dit, un savoir lié donc à cette vie, à cette survie, à cette guérison, qui est le principal souci finalement des hommes de l'époque comme de la nôtre. Alors là aussi, je me censure sur un certain nombre de bêtes, et j'essaye de conclure sur le fait que, incontestablement, on a à la fois dans l'œuvre étonnante, sui generis, tout à fait à part qu'elle nous a léguée, quelque chose qui relève de la médecine, quelque chose qui relève de la science naturelle, quelque chose qui relève aussi de la pharmacopée. On peut aussi lire le Liber Subtilitatum comme une pharmacopée, c'est-à-dire comme une série de notices qui toutes se terminent par les bienfaits que l'on peut tirer de telle ou telle créature. Mais plus profondément, c'est un vrai sentiment de la nature hein, qui se livre dans cette œuvre apparemment plus technique que ces œuvres visionnaires. C'est un sentiment de la nature teinté d'une certaine nostalgie, comme je l'ai dit, empreint d'admiration, empreint de crainte religieuse, et donc fondamentalement un éloge de la création qu'elle essaie de remettre l'homme en place, l'homme qui en a perdu donc l'idée. Alors, l'homme doit garder la mesure, hein, c'est une des choses qui l'obsède et qu'elle essaye de le lui rappeler en s'autorisant de Dieu encore une fois. Bon, ça, elle n'est pas la première à le dire. Ambroise, dès son Hexaméron à lui, le disait. Et Hildegarde, donc, il contribue à son tour en essayant d'aider l'homme à déchiffrer certains signes de la nature, mais pas tous. Hein. Et là, je pense à quoi ? Je pense notamment à l'astrologie, contre lesquelles elle émet des mises en garde, au contraire, très fortes. Il ne s'agit pas pour l'homme de prétendre tout savoir, de renouer avec ce fameux péché d'orgueil qui a causé sa chute. Hein. Elle peut lui révéler des choses utiles, mais il ne s'agit absolument pas, par exemple, de s'approprier le futur. Hein. Le devoir prophétique qu'Hildegarde accomplit en révélant les subtilités des créatures n'est pas de satisfaire une curiosité, disons, tous azimuts. Hein. Il y a quand même des limites à ce qu'elle veut ou peut révéler. Alors, pour conclure, on peut s'interroger sur la postérité de cette œuvre, hein, à part sur le succès rencontré par ses écrits, je répète, passionnants et attachants et tout à fait singuliers. Incontestablement, même si je vous l'ai dit au pas de course, il y a un petit peu tout dans la méthode que Hildegarde concilie pour aborder la création et en rendre compte, et le symbolisme n'en est pas absent. Hein, je n'ai pas eu le temps d'en parler autant que j'aurais voulu, mais il y a une vision symbolique du monde, bien évidemment, dont elle ne se départit pas. Et c'est peut-être ce qui explique quand même qu'au siècle suivant, elle ait cessé d'avoir de l'influence, ou qu'elle ait une influence extrêmement circonscrite. J'entends par là que la circulation de ses textes, par exemple, a été très limitée à l'Allemagne, hein, et même l'axe du Rhin, dirais-je. Et puis, quand on trouve des citations de cette œuvre médico-naturaliste chez tel ou tel auteur, on en a retenu justement que l'aspect pharmacopée, dont je disais un petit mot tout à l'heure, on a extrait tel ou tel remède, on a extrait telle ou telle recette de ce Liber Subtilitatum, comme s'il ne convenait quand même plus hein, au nouvel esprit pré-scientifique, pour utiliser un mot un peu gros, un peu simplifiant, qui s'épanouit à partir du XIIIe siècle. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi les encyclopédistes qui lui succèdent au XIIIe siècle, hein, Barthélemy d'Anglais dont tu me parlais, Anne, tout à l'heure, Thomas de Quentin-Pré, Vincent de Beauvais, ou même Albert Le Grand, passent complètement sous silence l'apport de Hildegarde en matière. Hein. Ça ne s'explique guère, sauf à considérer qu'ils étaient mal à l'aise face à la prégnance, encore une fois, du récit biblique, quand même, malgré tout, dans sa description du Cré. Et la chose la plus symptomatique, hein, c'est qu'Hildegarde est bien citée par Vincent de Beauvais, mais c'est dans son Speculum Historiale, et il la cite en tant qu'inspirée de Dieu pas en tant que naturaliste. Donc, pour véritablement me taire et vous laisser ensuite la parole, en tant que femme savante, Hildegarde n'a pas eu beaucoup de succès. Hein. Hildegarde a eu une postérité pour le moins timide. Elle est redécouverte dans des circonstances vraiment obscures, donc par ce fameux Jean Schott, qui de toute façon fait subir des amputations à son œuvre, puisqu'il juge justement que ce livre 4 consacré aux pierres précieuses, qui est empli de formules de bénédiction, ne va plus du tout, hein, n'est plus du tout au goût du jour, et n'est plus lisible, si vous voulez, pour un homme de la Renaissance. Donc c'est pourquoi, à mon sens, au sens de beaucoup d'autres aussi, il prélève ce livre purement simplement pour quand même tenter de publier Hildegarde. Alors, ce qui est le mot de la fin, ce sera ça, hein, c'est le contraste entre l'œuvre scientifique avec des guillemets ou médicale, quand même tout à fait originale hein, pour l'époque à laquelle elle se situe, et son faible écho, et au contraire, le succès absolument phénoménal qu'a eu Hildegarde en tant que prophétesse, et surtout qu'a eu la pseudo-Hildegarde en tant que prophétesse. Là, je n'ai pas eu le temps d'en parler, puisque ce n'est pas l'objet de cette causerie, c'est même une autre histoire, mais un personnage motivé par de pieuses intentions, un certain Guébénaud, s'était mis en tête dans les années 1220 de faire un montage des prophéties d'Hildegarde pour faire pièce à celle de Joachim de Flore, et c'est ce montage, cette pseudo-Hildegarde, qui a eu un succès phénoménal, plus grand que la vraie Hildegarde, tant en matière prophétique qu'en matière naturaliste. Voilà, je me tais pour respecter l'horaire qu'on m'avait conseillé de suivre. En vous remerciant.
Merci beaucoup, Laurent. C'était exactement ce à quoi nous nous attendions, de savoir grâce à toi que Hildegarde de Bingen est une femme de science. Tu aurais pu mettre un point d'interrogation, mais je pense que dans le titre de ta conférence, mais je pense que ce n'était pas nécessaire. Merci infiniment, c'était superbe. Donc, la parole est à la salle.
Je ne sais pas si j'ai besoin du micro. Simplement, est-ce que l'attribution de toutes ces œuvres à Hildegarde de Bingen est absolument certaine ?
Oui. Ne serait-ce que parce qu'elle donc, elle-même parle du fait qu'elle a composé cette œuvre, enfin ce syntagme, si tu veux, dans lequel on reconnaît le titre que ça a dans tous les manuscrits complets qu'on en connaît. Et puis, il y a aussi de la correspondance, par exemple, de son cher Vollmar, qui également atteste qu'elle a composé cela. Donc, de son vivant, disons, il y a une certitude. Elle a composé à Liber Subtilitatum. Là où les choses se corsent, c'est qu'après sa mort, il y a une division des écrits qui se fait jour, liée à la canonisation, sans qu'on puisse affirmer que c'était pour la faire canoniser qu'on l'a coupée en deux, en gros. Hein. Mais de son vivant, on peut être certaine qu'elle a révélé des choses sur les subtilités des créatures. En revanche, qu'il y ait eu deux écrits, c'est plus que douteux. Il est probable que le second traité est né parce qu'on a retrouvé des choses Hildegarde et qu'on les a justement un peu trafiquées, si tu me passes l'expression. Aucun ne date du XIIe siècle. Les plus anciens datent de 1300. Donc c'est assez tardif. Ça fait 150 ans de différence entre, si je sais bien compter, oui, entre le début de la composition et la rédaction des manuscrits.
Et dans ce qui compose sa pharmacopée, est-ce qu'il y a des choses originales ou vraiment ça sent l'influence de beaucoup de choses qui sont connues, qui émergent à l'époque, ou bien...
Alors, elle est en prise quand même avec l'actualité. Hein, c'est ce que j'ai voulu dire en parlant notamment de Salerne. Par exemple, elle parle du mercure, elle parle du sucre, et ce n'est pas du tout fréquent. Elle parle de certains champignons.
Oui, mais on en parle à Salerne. Est-ce qu'il y a des choses originales qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple ?
Donc, c'est une des premières attestations, si vous voulez, hors du milieu vraiment médical de pointe que constitue Salerne, qui est quand même assez loin, que l'on est dans les pharmacopées occidentales, pour le coup du Nord. Hein, notamment le mercure, j'y pense, là, pour des dermatoses, elle est la première non méridionale, je dirais, à le recommander.
Bon, bah, elle est complètement démystifiée pour moi, c'est dommage. Mais c'était très intéressant, merci beaucoup.
C'est peut-être pas Salerne, c'est peut-être par Constantin l'Africain, Moncanset, etc., le circuit, puisque lui, en fait, est le premier hein, à l'introduire. Enfin bon, le fait est que le mercure est là.
À propos de la division de son premier ouvrage, presque Physica, oui. D'où est-ce qu'elle tient ça ? Est-ce qu'il y a une sorte d'archétype ou de précédent, ou est-ce que c'est véritablement original ?
Non, c'est la lignée, comme j'ai dit, de Hexaméron. On fait une section par chose créée tel ou tel jour. Alors, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je ne veux pas vous barber, mais il y a justement un problème sur le nombre de... Non, mais le nombre de livres, par exemple, n'est pas stable. Il y a un problème gros avec le livre 2. Donc, on ne sait pas s'il était là dès le début ou non. Mais en fait, grosso modo, elle reprend quand même une progression qu'on connaît chez d'autres auteurs en tâchant de suivre l'ordre d'apparition des choses selon l'ordre dans lequel elles sont présentées dans la Genèse. Donc ça, c'est pas original. En revanche, ce qui est original, c'est les subdivisions qu'elle introduit à l'intérieur de ses sections, le classement, la hiérarchisation, puis les correspondances qu'elle établit entre les créatures.
Je voulais te poser une question indiscrète. Pourquoi t'es-tu intéressée à Hildegarde de Bingen? Est-ce un hasard ou...
Oui, pur.
Pur.
Oui. C'est à cause d'Alain Michel, s'il faut trouver un coupable. Qui donnait un séminaire de latin médiéval et qui était parfaitement mystique et enthousiasmant.
Oui.
Et qui a dit à toute la classe, allez, que si on voulait faire une maîtrise sur un auteur méconnu en latin médiéval, il en avait plein à nous proposer. Et il a sorti de son sac Hildegarde.
Voilà. Et tu as été...
Et j'ai commencé par ses poésies.
Voilà. Oui.
Et après, voilà, de fil en aiguille.
Et tu as été fascinée. Qu'est-ce qui... Dis-nous.
Bah c'était sans doute ma grande ignorance du Moyen-Âge, mais cela dit, maintenant que j'en sais un peu plus, elle continue de m'intéresser. Donc, je pense qu'elle a une telle gamme d'activités, de facettes. Et puis, il y a quand même un grand nombre de questions non résolues. Il y a des découvertes textuelles qui régulièrement relancent les débats. Il y a de quoi faire, me semble-t-il.
Merci.
Vous dites que ce serait des origines humaines ou des connaissances qu'elle a eues. Mais
oui.
Elle parle qu'elle a eu des visions.
Oui.
Donc, elle mentirait dans ce qu'elle dit, quoi.
Non. Elle a pu avoir des visions et ne rien lire directement.
Comment ?
Elle a pu avoir des visions. Enfin, elle a eu des visions, ça, franchement, je ne le nie pas une seconde. Et ne rien lire directement.
Vous avez parlé que les origines, c'était qu'on lui a dit,
Oui, ben ça ne veut pas dire qu'elle a lu elle-même. On ne sait pas si elle a lu elle-même, si on lui a dit, si on lui a raconté. Et de toute façon, si tant est qu'elle ait lu des choses, comme il y a des moments où quand même on en a la forte impression, elle les retravaille. Donc quand elle dit « je ne dois rien savoir humain », elle n'est pas complètement dans le mensonge. Non, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, si
elle a une démarche scientifique, Laurence. Après toi, est-ce qu'elle a une démarche scientifique pour l'époque?
Si tant est que le mot scientifique puisse avoir un sens au XIIe siècle, oui, je pense que quand même toutes les descriptions qu'elle donne, je dis sur les poissons notamment, c'est assez frappant. Le mode de reproduction, oui, on peut l'appeler comme ça. C'est Georges.
Je vous vois toujours lever la main deux fois. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai vu une main. Je ne suis pas trompée.
Quelle était sa connaissance du latin?
Alors, la connaissance du latin, elle dit qu'elle le sait mal, qu'il est rugueux et qu'elle a besoin d'un secrétaire pour le limer. C'est ça, ses mots. Mais en même temps, elle le savait. C'est encore l'époque où les femmes dans les cloîtres savent le latin. Hein. Donc, l'emploi de termes vernaculaires, c'est aussi assez compliqué finalement à traiter. Il y a des réalités pour lesquelles peut-être qu'elle manquait du nom latin. Ça, c'est bien possible pour telle ou telle petite créature des champs ou tel animal. Mais en même temps, comme les manuscrits sont assez postérieure à ce qu'elle a écrit, il est bien possible aussi que des scribes aient refichu de l'allemand là où elle avait mis du latin. Je vous en donne juste un exemple. Dans son livre de la vie des mérites, elle parle de la licorne sous le nom latin. Mmh. Elle sait le dire en latin. Et en revanche, dans la physica, ça se dit Einhorn.
Oui.
Donc, c'est le genre de choses qui fait qu'on ne peut pas non plus dire tout ce qui est écrit en allemand, c'est qu'elle l'a vu, tout ce qui est écrit en latin, c'est qu'elle ne l'a pas vu. C'est plus compliqué, hélas.
Il y avait d'autres comme elle dans... parce qu'il y a des chroniqueurs à l'époque en France qui font une visite en Allemagne et disent « J'ai vu une vieille femme qui a des visions, mais elle est illettrée. »
Ah oui, oui, mais tout le monde dit qu'elle est illettrée puisqu'elle le dit elle-même. Elle ne peut pas dire qu'elle est illettrée. Elle doit dire qu'elle doit tout à Dieu.
Oui, hein? Mais si elle sait lire un peu de latin, elle n'est pas illettrée.
Elle dit qu'elle ne doit rien au humano magisterio. Donc il y a une coquetterie de la mystique, si vous me passez l'expression. Enfin,
oui, mais pour qu'un chroniqueur dise qu'elle est...
On dit d'un côté qu'elle est illettrée, c'est-à-dire qu'effectivement, a priori, elle s'exprime mal toute seule en latin. Là, il est quand même bien plausible qu'elle ait eu besoin de secrétaire pour affiner son style et écrire correctement. Ça, c'est vraiment plausible. Oui, mais en même temps, on a aussi des témoignages où on la compare au plus grand théologien parisien, au point de vue de la culture et de la subtilité de sa pensée.
Donc la question du literata pas literata, elle veut dire qu'elle ne sait pas bien le latin, c'est juste ça que ça veut dire. Et de fait, je crois qu'elle a toujours besoin de quelqu'un pour que son latin, voilà. Oui. Je ne sais pas là encore si je réponds bien ou si je réponds côté de la plaque. Mais ça fait partie du topos de dire qu'elle était illiterata et que pourtant elle surpassait tout le monde en subtilité, etc. etc.
C'est assez quand même courant en Allemagne, à cette époque-là, que les écrits en latin sont très, très influencés par l'allemand et on a du mal à croire que c'est du latin par moment.
Elle a un latin sui generis, ça c'est vrai.
Oui.
Mais j'arrive pas à le trouver germanisé pour autant. C'est vraiment un latin très spécial, mais à part de temps en temps, une interjection en allemand, mettons, dans son drame liturgique ou dans tel ou tel chant, j'ai pas l'impression que la structure mentale que cela reflète soit liée tellement à l'allemand. Est-ce qu'elle s'en plaint? Je ne sais pas très bien là aussi comment.
Attendez, monsieur, vous reprenez le micro.
La biographie rapide de Régine Pernoud.
Elle se plaint de ne pas savoir le latin, mais elle ne se plaint pas de ne pas savoir bien l'allemand. Enfin, elle ne me semble pas.
Si, il paraît que dans un. Je ne sais pas, un de ses écrits, mais alors lequel? Le Civias peut-être. Elle dit qu'elle est dans une sorte d'état d'aliénation du fait qu'elle ne sait même pas sa propre langue.
Ah oui, c'est possible, ça ne me rappelle rien du tout. Je pense à ça. Oui, elle veut dire qu'elle ne sait rien.
Mais il y a peut-être probablement un problème de relation avec sa langue d'origine, j'en sais rien.
Oui, peut-être vous avez raison, il faudra que je regarde de plus près, ça ne m'évoque rien. Je pense à son amie Elisabeth de Schönau. Bon, elle n'a pas du tout fait œuvre de science, donc elle ne lui est pas comparable pour tout, mais quand elle a laissé des visions en latin, forcément, et pour ne pas avoir l'air, justement, de l'avoir appris, eh bien, son frère se charge de dire que c'est là aussi des visions qui lui ont donné la science infuse des langues. On a des déclarations sur la connaissance des langues qu'il faut prendre là aussi avec quelques pincettes, enfin, ramener ça à la Pentecôte, en gros. Puisque Hildegard, on a aussi une langue inconnue, on s'est dit, est-ce qu'elle fait de la glossolalie ou pas? Il y a aussi cette question-là, que je n'ai pas évoquée, mais qui est intéressante.
Est-ce qu'on a une idée de la petite bibliothèque dont elle pouvait disposer dans son petit monastère?
Non, on sait par contre qu'il y avait deux scriptoria, ce qui n'est pas rien pour l'époque. Donc on copiait des livres. Voilà. Et puis elle était pas loin d'abbaye qui, elle, était bien dotée et dont on a les catalogues. Alors je sais, c'est ce que j'explique, hein, qu'on extrapole, parce qu'on ne peut pas affirmer. Mais ses chers amis de Saint-Mathias ou Saint-Eucher, de Trèves, pardon, ou Saint-Maximin, voilà, avaient des livres dont on a véritablement là des attestations. Bon. Mais pour elle, non, on n'a pas du tout de traces de catalogue ou de liste.
Est-ce que Saint-Thomas a eu quelque chose, a reçu quelque chose de...
Non.
Non, rien.
Non.
Il était imperméable.
Je pense que... Non, c'est pas ça. C'est qu'elle circule. Alors, la femme de science, si on va dire ça comme ça, circule sur cet axe rhénan de manière très limitée. Au maximum, elle atteint Heidelberg et voilà. Et en revanche, donc, la prophétesse circule un petit peu partout, mais va être mêlée à différents conflits, parfois assez aigus, puisque différentes époques vont récupérer ces prophéties, qui étaient intemporelles, effectivement, et les appliquer à des contextes très différents. Donc, on va dire qu'elle avait prévu les mendiants. Lors de la querelle séculier-mendiant, elle va être convoquée, utilisée, et on l'utilise encore au XVIIIe siècle contre les jésuites, par exemple. Donc, saint Thomas, je ne vois pas très bien ce qu'il aurait pu... Il ne me semble pas. Ce sera à revoir de près. Ça, je ne peux pas garantir ma réponse.
Je voulais revenir, justement, sur cette anti-Joachim Fleur là, qui a été fabriquée, en quelque sorte, par...
Ah oui, alors c'est une entreprise donc pieuse, comme tous les faussaires de l'époque. Un certain donc Guébénaud, prieur cistercien d'un monastère voisin à Eberbach, dans les années 1210, s'agace donc de l'ampleur et de la diffusion des prophéties de Joachim de Flore, trouve qu'Hildegard, on peut trouver dedans de quoi répondre à cela, de quoi donc le concurrencer, mais qu'en même temps, elle écrit très obscurément. Et c'est pourquoi il s'attache à faire un montage de prophéties sorties de leur contexte. Alors déjà, elles étaient assez intemporelles, et donc il les coupe, il les monte, et là, par contre, c'est le succès absolument fulgurant qui a permis encore plus à ces prophéties ou pseudo-prophéties d'être adaptées à tous les contextes qu'on voulait, puisqu'elles étaient vidées un petit peu de leur ancrage historique, si tant est qu'elles en aient eu un. Je pense à sa lettre contre les cathares, par exemple, qui faisait référence à des choses bien précises, les cathares en Allemagne en 163, à Cologne, etc. Revisité par Guébénaud, là aussi, ça a pu servir à des causes très variées. Pendant la réforme aussi, on sollicite beaucoup Hildegarde. Mais bon, je ne peux pas m'étendre parce que c'est très très long, mais il y a des livres entiers sur le sujet.
Monsieur Pont, je vous ai vu votre... Attendez, je vous donne le micro. Allez-y.
Je me suis souvent promené le long des rivières,
oui.
Et ça m'a jamais permis de décrire avec précision les poissons.
Parce que les rivières sont
alors,
polluées.
Alors, je me demande maintenant. Si elles ne faisaient pas de la pêche sous-marine ou de la plongée.
Ça, je n'ai pas de, retrouvé les palmes d'Hildegarde, mais elle a pu connaître des pêcheurs aussi, Georges, voilà, qui pouvaient aussi lui dire, oui. Ou ceux qui approvisionnaient le monastère, etc. Il y a ces relais-là qui nous échappent pour toujours, mais qu'on ne peut pas négliger. Albert le Grand, il interroge clairement les pêcheurs de baleines, il le dit. Donc, elle a peut-être fait pareil. Mais les eaux claires du Rhin, il faut essayer de vous les représenter. Voilà, où les viviers des monastères étaient peut-être propres. Parce que vraiment, là, c'est extrêmement précis, pour le coup, comme si l'eau était effectivement cristalline.
Moi, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps, mais la description du corps de la femme, ça m'aurait intéressé.
Coquine.
Bon, on a fait, tu as intervenu sur le séminaire, la journée d'études qu'on a donnée sur le corps. Donc,
oui.
Donc comment une sainte, entre guillemets, qui a des visions, considère le corps? Mais là, nos amis du CESM en parleraient certainement mieux que moi. Mais qu'est-ce que tu y as trouvé, Laurence?
Elle le considère avec nettement moins de tabou que ce qu'on a pu lui prêter, notamment au XIXe siècle, par exemple. Au XIXe siècle, là, c'est le grand raidissement. On refuse à Hildegarde la paternité ou la maternité de ses œuvres de science parce que, justement, elle parle sans aucune gêne de réalité physiologique. Voilà. Et dans son lexique de moins connu, il y a même des termes pour désigner le membre viré. Alors on a dit, oh là là, scandale, une sainte n'a pas pu écrire ça, etc. Bon, alors maintenant, on s'est un peu libéré. Mais non, pour être plus sérieuse, dans les monastères, de toute façon, c'est là que sont copiés et conservés, finalement, pendant assez longtemps, les traités de gynécologie. Hein. C'est là aussi qu'on vient, à la limite, consulter si besoin est. Et puis, elle accueille des femmes qui ont été mariées dans son monastère. Donc, ce n'est pas que des corps virginaux qui sont abrités sous ce toit. Hildegarde sort, comme je l'ai dit, du cloître et rencontre des gens viennent à elle, et ce n'est pas du tout considéré comme quelque chose d'embarrassant, le sujet. Autant elle nous étonne parce qu'elle dit des choses très bizarres sur le crâne de la femme, par exemple, mais ce qu'elle dit de la conception, même du plaisir sexuel, bon, ça ne veut pas dire qu'elle l'a connu elle-même, on a pu si bien lui raconter qu'elle est capable d'en parler. Chase n'est jamais allé aux États-Unis, paraît-il, et a situé tous ses romans là-bas. Non, je blague, hein, mais je pense qu'il y a des originalités qui sont effectivement qui invitent à remonter des chaînes, et parfois on a trouvé la source textuelle probable, je pense au crâne féminin par exemple, dont elle dit des choses surprenantes. Mais en revanche, le fait qu'une nonne décrive le corps de la femme, Albert le Grand décrit les plaisirs solitaires démoniales. Bon, c'est pas parce que l'Église est très prégnante qu'on était plus gêné pour parler de ces choses-là qui font partie de la vie, qui ne signifie pas qu'elle s'y adonnait.
C'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais il y a des gens qui ont imaginé ça.
Est-ce que tu penses qu'elle avait une écriture, c'est un petit peu anachronique maintenant, de genre ou pas? Enfin, je veux dire...
Non.
Non. C'est-à-dire qu'elle était...
Oh non, elle dit qu'elle est homo simplex. Oh là là, elle veut... Quand elle veut faire sa modeste, elle dit qu'elle est une pauvre femme, mais sinon, elle veut être un homo simplex, c'est-à-dire en fait un être sans sexe, justement.
D'accord.
Tel que... Presque une création androgyne, hein, à la Platon. Mais les gender studies, par contre, lui ont fait dire oui. Qu'elle...
Oui, c'est la question que je te pose. Alors, lui ont fait dire que...
Ben oui, un certain nombre de choses. Enfin, qu'elle a une vision intéressante, originale, compatissante de la femme, mais enfin, féministe.
Je n'ai pas dit ça.
Non, mais je ne dis pas que toi, tu l'as dit. Mais non, ça s'écrit.
Oui,
elle est extrêmement libre. Ça, oui, elle est extrêmement libre. Elle tense des hommes avec une liberté de ton étonnante, mais il n'y a pas dans son écriture, déjà je ne sais pas très bien ce que ça veut dire une écriture féminine, mais bon, et je ne vois rien de féminin dans ce qu'elle écrit, hein. Elle dit au contraire qu'elle est un petit instrument, une pauvre femme à la limite, et sinon donc ce fameux homme simple à travers lequel Dieu transmet des choses aux autres.
Bon, voilà. Attendez,
elle
n'a
pas été canonisée. Mais non. On a tenté par trois fois et il semblerait que la première fois, le dossier est parti à Rome et s'est perdu en chemin ou n'était pas complet. On a fait une nouvelle demande de complétude et il semblerait que le dossier s'est perdu en chemin. Donc elle est ce qu'on appelle une sainte de la main gauche, c'est-à-dire qu'elle a été évidemment sanctifiée localement très tôt, mais elle n'est pas vraiment sainte selon les critères de la canonisation mise en place à la charnière entre 12e et 13e, quoi.
En tout cas, tu es très contente de la rencontrer ce soir, grâce à toi, Hildegard de Bingen. Merci beaucoup, Laurence. Merci
à vous.